le rendez-vous des experts, nous allons parler de science et pour cause. C'est la semaine de la fête de la science partout en France et nous allons parler de l'accélérateur de particules du CERN, qu'on appelle le LHC. Et pour nous en parler, deux physiciens du laboratoire de particules d'Anne-Sylvieu nous font l'honneur d'être nos invités. Il s'agit de Pierre-Antoine Delsart. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour.
Et à vos côtés, Fawzi Boudjema. Bonjour,
bonjour
Fawzi. Alors, l'un de vous, à savoir Pierre-Antoine, est expérimentateur et Fawzi Boudjema, vous êtes théoricien. On va peut-être présenter ces deux fonctions qui sont bien distinctes et en même temps qui travaillent de pair. Et puis c'est l'occasion aussi de parler de ce laboratoire de physique des particules d'Anne-Sylvieu que les gens ne connaissent pas forcément. Alors on va peut-être commencer avec vous Pierre-Antoine. Un petit mot sur le laboratoire de physique des particules.
Oui, donc c'est un laboratoire qui est basé à Anne-Sylvieu, qui contient donc deux parties. Une partie où travaille des expérimentateurs sous différentes expériences, notamment au CELL du CERN dont on va parler. Et puis des collègues comme Fawzi et d'autres qui travaillent sur la théorie et les théories de la physique fondamentale.
Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il y en a un qui est plus pratique et donc l'autre plus théorique, Fawzi?
Je pense qu'on peut présenter la chose un peu comme ça, oui. Donc un théoricien, ce qu'il fait, c'est qu'il énonce des idées, il énonce dans un cadre très mathématique, il faut dire. Et c'est vrai qu'il y a certaines idées qu'on lance en l'air et qu'on travaille en même temps. Et ça donne aussi des idées à nos expérimentateurs pour aller voir si ce qu'on est en train de raconter existe vraiment ou c'est juste... ça reste au niveau mathématique ou ça reste au niveau des idées, quoi.
Est-ce que c'est souvent vous qui êtes à l'origine, justement, de l'expérience qui va être menée ensuite par la suite par l'équipe d'expérimentateurs?
C'est toujours gênant de dire ça, mais en fait...
Mais c'est un petit peu ça quand même?
Mais c'est un petit peu ça, parce que nous, disons, ces idées, on essaie de les regrouper ensemble, de voir s'il y a une certaine logique, on essaie de reconstruire un puzzle. Et dans ce puzzle, il peut manquer certains morceaux. Bon, ça reste du niveau hypothétique. Et puis l'idée, c'est de voir, étant donné que nous, c'est des sciences exactes, de voir si ces idées qu'on énonce représentent un peu la réalité.
D'où l'expérimentation.
D'où l'expérimentation, pour voir si c'est validé ou pas. Et puis des fois, ça peut tout chambouler, je veux dire. Et on a des idées qui ne sont pas même pas énoncées, dont on n'a pas vraiment pensé, et c'est l'expérimentateur qui découvre, et nous qui essayons d'interpréter et de voir s'il y a d'autres théories derrière.
Et donc vous tirez les conclusions ensemble des expériences, quoi, en gros.
On essaie de tirer des... Oui, absolument.
Oui, c'est souvent partagé.
Alors là, on a un Français qui vient de recevoir le prix Nobel de physique. Ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé à la France. C'est une bonne chose pour la physique française. Vous êtes fiers de ça quand ça arrive?
Oh, absolument, oui.
Ouais. On est toujours content de voir qu'on a des collègues qui sont récompensés. Même si c'est pas vraiment notre spécialité, ça fait plaisir.
Voilà, c'est quand même la science française.
Ce qui veut dire aussi, c'est que avec un phénomène comme ça, qui n'arrive pas tout le temps, surtout pour un physicien français, c'est que ça ramène aussi des jeunes vers la physique. Et il y a un manque de jeunes dans la physique, et puis on espère qu'avec le LHC, qui est une expérience extraordinaire, je dois dire, on pourra attirer beaucoup plus de jeunes qui vont faire de la physique, et en faisant de la physique, faire de la recherche de pointe.
La fête de la science, c'est aussi ça, c'est attirer les jeunes, et les moins jeunes aussi, mais entre autres les jeunes, et peut-être faire naître des vocations vers les sciences, vers la physique entre autres.
Ben c'est ça, c'est le but de ces manifestations, c'est de montrer ce qu'on fait.
Parce qu'on ne sait même pas que ça existe, hein.
C'est ça. Souvent les gens n'ont aucune idée de ce qu'on fait, donc on essaye de leur expliquer, de montrer les motivations et l'importance dans la société de la recherche, et puis la passion et les défis qui sont associés à ces recherches. Donc on essaye vraiment d'intéresser.
Il faut être avant tout passionné. On peut rester combien d'années sur le même projet, sur la même mission? Est-ce qu'on peut y faire toute sa carrière?
J'ai des collègues dans l'Atlas qui ont commencé avec les débuts. Donc les débuts d'Atlas, c'était dans le milieu des années 90, 92, 93 pour les premiers projets. Et
donc ça fait
95
15
ans, quand c'était approuvé, donc ça fait longtemps. Et puis on en a encore au moins une dizaine d'années devant nous.
Ah, donc on peut faire toute sa carrière sur un seul et même projet.
C'est quand même assez récent. Enfin, ces grosses expériences, ça fait pas si longtemps que... On peut y passer des dizaines d'années dessus, mais c'est vrai que avec la taille des expériences qui augmente et la complexité qui augmente, il y en a de quoi faire une carrière dessus.
On va rentrer dans le détail de ce qui nous amène ce matin. On va parler du LHC. Le LHC, c'est le plus grand accélérateur de particules au monde, qui est en train d'être construit, qui est bientôt fini, puisqu'il devrait rentrer en fonction début 2008. Et on en parle à l'occasion de cette fête de la science, parce qu'il y a une grande exposition qui lui est consacrée, qui a démarré hier et qui va durer jusqu'au samedi 20 octobre à la MJC de Novelle, place de l'Annapurna à Annecy, du lundi au vendredi de 9h à midi, de 14h à 19h, le samedi après-midi. Et là, on peut rencontrer des scientifiques et leur poser tout plein de questions sur ce LHC. C'est ce qu'on va essayer aussi de faire ce matin. J'invite les auditeurs qui nous écoutent à réagir s'ils le souhaitent à cette émission. Vous connaissez le numéro de la ligne bleue. C'est le 0820 20 1992. Alors, cet accélérateur de particules, un projet énorme, un projet initié par le CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire. Qu'est-ce qui motive une telle entreprise, Fawzi Boudjema?
Bon, alors cette entreprise, je pense que c'est la continuation de la découverte du télescope ou de la lunette du temps de Galilée, on va dire. Et puis si cette lunette est devenue, on va dire, microscope, et ce microscope est en fait devenu un accélérateur. C'est pour pouvoir mieux voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais bon, je caricature un peu.
Oui, parce que là,
mais c'est d'aller voir exactement ce qui nous constitue et ce qui constitue l'univers.
Finalement, c'est la même question qui est à la base. Galilée avait la même question.
Galilée avait, d'une certaine manière, la même question. Donc, si je puis dire, Galilée, avec la lunette, il voulait vérifier si on était au centre de l'univers. Et ça, c'est par-delà le côté scientifique de la chose, par-delà le côté technologique de ce qu'a rapporté la lunette. C'est tout un contexte social, philosophique, on dirait religieux, surtout si on parle de Galilée. Donc, Galilée, disant, a chamboulé la chose en disant, on n'est pas au centre de l'univers. Là, un des défis qu'on essaiera peut-être de présenter, c'est de dire il nous manque quelque chose. Donc on comprend beaucoup de choses, mais il y a certains détails qui nous manquent, et en les comprenant, on est dans la situation que quand on regarde l'univers, on sait déjà qu'on n'est pas au centre de l'univers, mais on sait qu'il y a une grosse partie de l'univers qui est constituée par une matière que l'on connaît pas, et qui n'est pas la matière dont on est constitué. Donc philosophiquement, on n'est pas au centre de l'univers, mais on est même pas constitué de ce qui constitue l'univers. Donc on n'est rien du tout.
Oui, d'accord.
Et ça pose pour nous, c'est un grand défi et c'est un grand challenge du point de vue social, philosophique, scientifique, tout ce que vous voulez.
C'est une manière de se trouver soi-même, de retrouver en tout cas de quoi nous sommes faits.
Voilà. Mais en même temps, on ne fait pas le philosophe, disant on ne reste pas un peu dans les nues, on descend
sur Terre
et on essaie un peu d'expliquer la chose. Donc ça reste en même temps concret, disons il y a ce l'espace, de quoi on est constitué, la philosophie qui nous ramène comme étant un petit quelque chose de rien du tout, mais en même temps on ne reste pas que sur des questions philosophiques qui n'emmènent à pas grand chose, je dois dire, sans critiquer les philosophes.
Bien sûr. Donc cette machine, le LHC, a été présentée comme une machine à remonter le temps, c'est d'ailleurs le nom de l'exposition. Pourquoi ce nom-là?
Alors, Alors remonter le temps. Alors il faut croire que c'est pas un engin qui va.
C'est pas retour vers le futur. Hein?
Un retour vers le futur, disons, c'est assez concret. C'est juste recréer les conditions à l'origine de l'univers. Donc on essaie de remonter à certaines énergies qui sont des énergies considérables, à des densités considérables, qui recréent un peu les premiers instants de l'univers, pour voir un peu comment a été constitué l'univers, et est-ce que l'idée qu'on se fait de l'univers et les théories qu'on a formulées correspondent un peu à la réalité. Donc il nous faut des énergies considérables, et en physique, un peu l'énergie, c'est remonter le temps aussi. Donc on remonte vers les origines.
Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des réponses avec cette machine surprenante auxquelles on ne s'attend pas, qui pourrait remettre en question nos connaissances actuelles?
Pour certains aspects, oui. Par exemple, on s'attend, je vous avais parlé de cette matière noire, est-ce qu'on pourra la recréer?
Qu'est-ce que c'est cette matière noire?
Alors, cette matière noire, bon, si elle est noire, ça veut dire que c'est l'inconnu, qu'on ne connaît pas. On a certaines théories qui peuvent l'expliquer, et ces certaines théories qui peuvent expliquer la matière noire expliquent aussi le concept de la masse. Alors, la masse, c'est quelque chose d'assez singulier pour un physicien. Alors la masse, c'est quelque chose d'assez singulier, dans le sens où c'est assez facile à comprendre mais très difficile à appréhender. Donc, et en essayant de comprendre ce que c'est la masse, on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être aussi comprendre cette matière noire qui n'émet pas de lumière, mais qui constitue les 25% de ce qui fait l'univers. Donc dans certaines de nos théories, elle est là, mais on voudrait savoir si elle correspond à ce qu'on a énoncé.
Ouais, effectivement. Bon, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, d'en savoir un petit peu plus. On va revenir sur les motivations de la construction de cette immense machine qui est l'accélérateur de particules. C'est quand même un anneau de 27 kilomètres. C'est pas rien. Ça a été un travail colossal qui devrait bien rentrer en activité début 2008. C'est ça qui est prévu, les dates à peu près. Donc, on va reparler de tout ça. Et vous n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le sujet ou si vous êtes totalement néophyte et vous posez des questions sur cette grosse machine, à nous joindre au standard de France Bleu. Ce matin, on parle de physique avec l'accélérateur de particules du CERN, le plus grand au monde. Il va être mis en service l'année prochaine au Centre européen donc de recherche nucléaire. Il s'appelle le LHC. Pour nous en parler, deux physiciens du laboratoire de particules d'Anne-Sylvieu, Pierre-Antoine Delsart et Fauzi Boudjema. Alors, on a parlé un petit peu des motivations qui avaient fait qu'on s'était lancé dans un tel chantier d'une telle ampleur. Fauzi, est-ce qu'on peut faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui en physique fondamentale? On en est où de nos connaissances?
Alors, disons, l'idée de la physique fondamentale, la physique des particules, c'est un peu de reconstruire les briques élémentaires de la matière, c'est-à-dire quels sont les constituants fondamentaux qui font la matière, vous, moi,
de quoi je suis faite,
une table, etc. Donc là, vous savez tous ce que c'est qu'un atome, donc on est constitué de molécules, d'atomes, et puis on rentre un peu plus profond dans la notion d'atome. Dans l'atome, il y a des électrons, c'est tout ce qui circule dans les fils électriques. Et par exemple, l'électron, on pense que c'est une particule fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la casser beaucoup plus. Ceci dit, c'est dans la théorie. C'est possible qu'il y ait quelque chose de plus fondamental dans l'électron.
On en est là, en tout cas.
Je ne pense pas, mais bon, c'est possible. Alors, et avec dans le noyau, il y a aussi des protons. Alors, les protons, c'est ce qu'on va utiliser pour l'accélérateur du LHC. Par contre, ce proton, on sait qu'il est constitué d'une matière, de particules plus fondamentales, qu'on appelle des quarks.
Donc là, on est dans l'infiniment petit.
Donc, on a construit ces théories. Ça, c'est les briques de la matière. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que cette matière interagit avec une autre matière. Alors, et ces interactions-là, c'est un peu... On en a de quatre sortes. Il y a l'électromagnétisme, donc la lumière, en fait. C'est le photon, c'est les ondes radio qui véhiculent l'information. Et qui véhicule l'information dans ce cas précis entre deux électrons, par exemple. Donc on connaît cette force-là, qui est une force qu'on connaît depuis longtemps. Il y a une autre force qui est une force dans le noyau, qui est responsable de la cohésion du noyau, pourquoi le noyau n'éclate pas d'un seul coup, qui est une force qu'on appelle la force forte, et qui est en quelque sorte 100 fois plus forte que cette force électromagnétique qui interagit entre des particules chargées. Et puis après, il y a une troisième force, qui est la force faible, et qui est quelque chose comme 10 000 fois plus faible que l'électricité, on va dire. Et qui est responsable de la radioactivité, mais moi ce que je trouve encore plus important, qui est responsable de l'énergie solaire. C'est celle qui fait qu'il y a de l'énergie, donc c'est hyper important. Même avec sa vitesse. Et puis après, il y a cette force qu'on connaît tous, et avec qui on est tous très familiers, c'est la gravitation. C'est-à-dire pourquoi je lance mon stylo et puis il tombe par terre. Et cette force-là, par contre, et c'est ça qui nous pose un grand problème, c'est la force qui est la plus connue, mais qui en même temps nous pose un vrai problème, parce que sa force est tellement faible qu'on n'arrive pas à la faire rentrer dans le cadre d'une unification de toutes ces forces-là. Parce que l'idée du physicien théoricien, du physicien en général, c'est de croire que toutes ces forces-là ont une même origine. Et la force gravitationnelle, celle qui tient les planètes, celle qui fait tomber les stylos, on n'arrive pas trop à l'expliquer. Donc c'est celle avec qui on a le plus de contact, et c'est celle qui, au niveau de nos connaissances, est la plus difficile à appréhender.
Avec l'expérience du LHC, on pourrait donc avoir des indices pour savoir...
On pourrait avoir des indices assez indirects. Donc, disons, dans le LHC, ce qui est intéressant, c'est que quand je vous parlais de la gravitation, vous avez tous entendu parler de la mécanique quantique. Et c'est pour ça que là, que je voudrais revenir un peu sur la physique fondamentale, encore une fois, par ce biais. C'est que, par exemple, à la fin du 18e siècle, on pensait qu'on avait tout compris. Donc... Et il restait deux petits détails qu'on n'arrivait pas à comprendre, qui étaient des détails mais vraiment minimes, mais que certains physiciens voulaient absolument comprendre. Et ça a donné la révolution de la mécanique quantique, qui est à l'origine des transistors, des télés, des ordinateurs, etc. Donc, juste en essayant de comprendre quelque chose d'insignifiant, on va dire, on a fait un progrès fondamental.
Énorme.
Pour la théorie quantique de la gravitation, elle n'existe pas. Donc, on pense que tout est peut-être quantifié, ce qu'on appelle quantifié. Et la théorie de la gravitation n'existe pas. Et c'est relié un peu à ce qui peut se... qui va être fait au LHC, en nous donnant des indices sur une théorie beaucoup plus fondamentale que la gravité. Mais là, disons, le lien est assez tendu.
On entend parler du boson de Higgs, parce que ceux qui ont suivi, on avait fait une petite série, notamment sur notre antenne, pour présenter le LHC, on a dit qu'on recherchait l'existence du boson de Higgs. Alors on s'est tous posé la question de savoir ce que c'était ce boson, et qu'est-ce qu'il allait pouvoir nous amener, Fauzi, une petite réponse.
Alors encore une fois, alors quand on a parlé des forces, je vous ai parlé de la lumière, alors la lumière, ce qui véhicule la force, c'est ce qu'on appelle une particule, qu'on appelle le photon, c'est le contact du photon. Quand je vous parlais de la force de la force faible, celle qui est responsable de la radioactivité, il y a des bosons qui s'appellent des bosons W ou Z, qui sont responsables de la transmission de l'information, si on veut, de la force. Alors ces bosons, par contre, comparés aux photons, ils ont une masse. Et dans nos théories, quand on construit ces théories, elles sont tellement belles mathématiquement et tellement belles indépendamment, parce qu'il y a aussi une beauté. Elles sont construites sur des symétries et sur des concepts mathématiques et qui, en fait, explique très, très bien le monde. Ceci dit, quand on commence à donner une masse à ces particules, l'édifice s'écroule. Il n'y a plus de symétrie, c'est pas beau, etc. Donc, cette symétrie, en fait, elle est cachée. Donc, nous, on essaie toujours de retrouver une symétrie, et on dit que c'est cette symétrie cachée. Et cette symétrie est cachée dans ce qu'on appelle ce phénomène de Higgs, qui est une manière assez jolie, assez symétrique, de donner de la masse à toutes les particules. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que ce boson de Higgs est responsable véritablement du fait que les particules ont une masse? Ou est-ce qu'il y a autre chose à côté?
Bon. Alors,
c'est vrai que le but ultime, c'est de trouver ce Higgs, mais il pourrait y avoir autre chose.
Celle-là, on est pointu hein, quand même. Hein.
Voilà.
On est pointu. Autre petite question. Donc là, on a bien expliqué hein, cet accélérateur de particules. On est dans le monde de l'infiniment petit. Comment on va pouvoir, avec des expériences sur l'infiniment petit, en tirer des conséquences et émettre des théories sur l'infiniment grand, sur le cosmos, sur l'existence peut-être d'autres galaxies ou je sais pas quoi, ou d'autres éventuellement d'autres et d'autres planètes, ou comment on passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand?
Bon, ça, je pense, on en a déjà parlé un peu. Je suis désolé.
Pierre-Antoine nous racontera le LHC.
Bon, la matière de tous les jours, elle est constituée de quelques éléments dont j'ai parlé, par exemple l'électron, le proton. Et puis pas grand-chose d'autre. Bon, alors on sait déjà que cette matière-là, il y a trois familles. Donc il y a un autre électron qui est un peu plus lourd, il y a un autre électron qui est beaucoup plus lourd. Mais toutes ces familles-là, on arrive à les retrouver dans un accélérateur, par exemple. On arrive à les formuler aussi. Donc on connaît cette matière-là. Par contre, au début de l'univers, toutes ces particules coexister. Donc quand on est à des énergies tellement immenses, il y a une soupe où il y a toutes ces particules. Alors quand l'univers commence à refroidir, il ne reste plus que certaines de ces particules, il ne reste plus que nous. Mais à des énergies formidables, comme celles qui vont être créées par le LHC, en principe toutes ces particules devraient être là. Et d'autres particules dont on n'a même pas pensé. Et des particules comme celles qui, par exemple, expliquent la matière noire. Donc, en remontant à des énergies formidables, on arrive à recréer des particules qu'on ne retrouve pas tous les jours.
Bon, mais écoutez, en tout cas, c'est un sacré beau projet, ce LHC, dans la communauté scientifique. J'imagine que, outre ceux qui sont sur le projet même, tous les physiciens sont impatients de savoir ce qui va se passer et savoir ce qu'on va découvrir. C'est, j'imagine, hein, Pierre-Antoine, vous confirmez.
C'est la grande excitation du moment en physique des particules, et puis en physique fondamentale en général. C'est que ces expériences ont commencé dans moins d'un an maintenant. Ça fait longtemps qu'on les attend. Et ce que Fauzi n'a peut-être pas explicité, c'est que les modèles théoriques à l'heure actuelle sont en attente de données expérimentales pour pouvoir progresser. Il y a beaucoup de choses que on imagine au-delà du modèle standard que Fauzi a décrit, qui pourraient aller plus loin dans la compréhension de l'univers. Il y a beaucoup de modèles qui sont tous différents les uns des autres, pas forcément compatibles. Et la seule manière de trancher entre ces modèles, ça va être de faire l'expérience et de voir ce qu'est réellement la nature.
Est-ce que vous comptez les jours? Est-ce que c'est marqué J- dans
presque.
Vos bureaux?
Ouais. Pas tout à fait, mais...
On connaît la date exacte de la mise en service?
On ne connaît pas la date exacte, parce qu'on va en parler, c'est une machine technologique énorme, donc il y a énormément de choses à régler avant de pouvoir faire démarrer l'accélérateur. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas dire la date exacte, mais on espère que l'été prochain ça va commencer et qu'on va pouvoir prendre des premières données.
On va expliquer ce qu'est le LHC dans quelques instants. On fait une petite pause musicale, on va écouter Noir Désir et puis juste après, on se retrouve.
Vous avez la parole, prenez-la jusqu'à 10h.
La vie en bleu, le rendez-vous des experts, se met à la physique fondamentale. En effet, ce matin, dans le cadre de la fête de la science, nous parlons de l'accélérateur de particules du CERN avec deux physiciens du laboratoire de particules d'Annecy le Vieux, Pierre-Antoine Delsart et Fawzi Boudjema. Alors Pierre-Antoine Delsart, présentez-nous cette machine, ce fameux LHC, cette grosse bête.
Donc c'est un accélérateur de particules. En l'occurrence, on va accélérer et se faire collisionner des protons ou des noyaux de plomb. Donc peut-être que ce serait bien d'expliquer le principe, pourquoi on les fait se rentrer dedans. Ouais. Ben c'est pour tester les théories, les interactions dont parlait Fawzi tout à l'heure. On va utiliser les protons et en fait on est intéressé par les particules élémentaires qu'ils contiennent. Donc en les faisant collisionner, on va pouvoir faire interagir les particules et ces interactions vont être gouvernées par toutes ces théories fondamentales. Donc de la production de ces collisions, de ces interactions et de leurs produits de désintégration. Donc en interagissant, elles vont donner naissance à différentes particules qui vont être émises dans différentes directions avec différentes énergies. Et le fait de pouvoir mesurer toutes ces particules émises justement dans certaines configurations précises va nous permettre d'avoir un accès direct aux lois et aux théories qui gouvernent ces interactions.
Alors comment on les fait pour se faire collisionner? Déjà, comment on fait pour les mettre dans la machine, ces particules?
Comment ça se passe? Donc on utilise un accélérateur, donc c'est le LHC, qui est situé dans un tunnel de 27 km de long, qui est à côté de Genève, au CERN, sous la frontière franco-suisse, enterré à peu près à 100 mètres sous terre. Et donc dans cet anneau, on va faire circuler en deux sens des faisceaux de protons. Donc comment on fait pour mettre des protons dans un faisceau? Ben, en fait, les protons, c'est facile, c'est le noyau d'un atome d'hydrogène. Donc on prend du gaz d'hydrogène, on enlève les électrons qui orbitent autour des noyaux d'hydrogène grâce à des champs électriques, et puis on obtient des faisceaux de protons, enfin des nuages de protons grâce à cela. Donc une fois qu'on a ces protons, on commence à les éjecter dans un petit accélérateur, qui les monte à une certaine énergie. Et puis petit à petit, par un réseau d'accélérateurs différents, on augmente la vitesse de rotation de ces protons et on finit par les injecter dans l'accélérateur principal qui est le LHC.
Alors, 27 km de long, quel est le diamètre de ce tunnel?
Donc 27 km de circonférence, fait, il faut faire le petit calcul... De pi R.
Non, mais le diamètre du tunnel
Le diamètre du tunnel, il me semble que c'est pas très grand. Le tunnel, il fait dans les 5 mètres de large pour pouvoir laisser travailler les gens, faire passer tous les câbles de service. Mais les tubes qui contiennent les protons, ils ont quelques centimètres de large.
Et alors le tube est réfrigéré, parce que pour tout ça, il faut qu'il y ait une certaine température. Voilà. Et là, on est proche du zéro absolu, donc autant dire qu'on est très réfrigéré.
C'est ça, c'est parce que le but de ces collisions, c'est de les faire à très très haute énergie, parce que c'est à très très haute énergie qu'on va être sensible à la nouvelle physique et à la physique fondamentale qui nous intéresse. Et donc pour monter à des énergies immenses, il faut pouvoir... on est obligé d'utiliser des aimants très puissants. Et la meilleure manière qu'on connaisse d'avoir des champs magnétiques avec des aimants très puissants comme ça, c'est d'utiliser des aimants qui sont dits supraconducteurs. Et pour avoir des aimants supraconducteurs, il faut refroidir ces aimants à des températures extrêmement basses.
Qu'est-ce que c'est le zéro absolu? C'est pas 0 degré Celsius, hein, on va faire un peu de physique.
Ça correspond
à moins 300 degrés, moins 273 degrés.
Voilà, c'est ça.
Donc l'idée disant quand on va à ces températures-là...
Rapprochez-vous du micro, Fawzi.
Quand on... descend à cette température-là, on gèle certains atomes. Donc alors l'électron, il peut aller très vite dans le vide parce que ces atomes-là ne font pas écran.
D'accord. Voilà. Donc d'où l'intérêt de descendre à cette température. Ouais. Mais comment on fait pour réfrigérer un tunnel à cette température-là?
Donc il y a diverses techniques de cryogénisation.
Sans rentrer dans le détail,
on utilise des gaz comme l'hélium ou qui sont dont on sait descendre la température très très froide. Et donc c'est en soi un défi technologique énorme puisqu'il y a 9300 aimants dans la totalité de l'accélérateur à descendre à cette température. Et donc justement c'est l'un des aspects technologiques passionnants du LHC, c'est la possibilité de faire ce genre de choses.
On a une question par mail. En combien de temps les 27 km sont parcourus par les protons ?
Alors, voilà. Les protons, ils vont voyager quasiment à la vitesse de la lumière.
Donc on arrive à reproduire cette vitesse de la lumière
à quelques millionièmes près. Donc
ça va aller très très vite, hein, les 27 km du coup.
Ça va aller très très vite. Alors, j'ai plus le chiffre sous les yeux.
Parce que la vitesse de la lumière, redonnez-nous, c'est
300 000 km/s. Oui. Donc c'est ça, et donc il va faire plusieurs milliers de tours par seconde. Et donc par exemple, pour donner un ordre de grandeur, en gros, pendant les prises de données, les protons vont tourner pendant 10 heures
Une prise de données va durer 10 heures.
Et pendant ces 10 heures, les protons qui voyagent à la vitesse de la lumière vont parcourir la distance qui est équivalente entre un aller-retour entre la Terre et Neptune. Donc c'est pour donner un ordre d'idée de Neptune qui est la planète du système solaire qui est assez éloignée. Donc c'est des distances colossales.
Ouais, effectivement.
C'est des millisecondes. Donc,
Alors c'est bien beau de mettre tous ces petits protons, ces petites choses dans le LHC, dans l'accélérateur de particules, de les faire tourner. Mais comment nous, êtres humains, on va aller les voir et comment on va recueillir les données ? C'est là qu'intervient notamment le projet Atlas.
Donc le LHC, dans LHC, le C veut dire collisionneur. Donc on fait des collisions, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et ces collisions, elles ont lieu à des endroits bien précis dans le tunnel du LHC, là où on a construit les détecteurs de particules. Donc quand une collision se produit, je vous disais tout à l'heure qu'elle émet des particules, des radiations dans différentes directions. Et ces particules, qui sont les produits de la collision, elles sont enregistrées par des détecteurs qui sont construits spécialement pour ça. Donc l'expérience sur laquelle je travaille, qui s'appelle Atlas, c'est le nom d'un des détecteurs du LHC, il y en a 4 en tout, qui va mesurer...
4 détecteurs sur les 27 kilomètres.
Donc en gros, on peut les nommer, c'est Atlas, c'est avec que je travaille, CMS, et puis deux autres détecteurs qui ont des buts de physique un petit peu différents, qui s'appellent Alice et LHCB. Et donc ces détecteurs sont capables de mesurer et de enregistrer les traces des particules chargées qui vont être émises, de mesurer l'énergie des particules en les absorbant dans ce qu'on appelle des calorimètres, ou de mesurer en fait tous les types de particules, en particulier celles qu'on appelle les muons, qui sont capables de traverser entièrement les détecteurs. Et donc en mesurant l'énergie et les positions de ces différentes particules, en analysant de façon systématique les millions d'événements qui vont être produits, les milliards d'événements qui vont être produits, on va pouvoir tester ces théories de physique.
Comment on va faire pour analyser toutes ces données ? Parce que j'imagine que les données vont être énormes. Ça va être d'un seul coup énormément de chiffres qui vont sortir de ces détecteurs. Et comment on va faire pour les analyser et pour les recueillir, toutes ces données ?
Oui, c'est ça. C'est que Atlas, c'est un défi technologique majeur. Pour donner un ordre d'idée, on va lire à chaque fois qu'on va prendre un enregistrement 100 millions de voies de lecture, c'est-à-dire 100 millions de quantité d'informations, et ça arrive en gros 200 fois par seconde. On va enregistrer 100 millions à peu près, enfin pas les 100 millions à chaque fois, mais c'est l'ordre de grandeur.
Alors un ordinateur géant, comment on
Alors,
fait
Alors en fait on va pas utiliser un ordinateur, on va utiliser des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs qui sont répartis sur toute la planète.
Et c'est ce qu'on appelle le grid.
Donc voilà, c'est ça. C'est une des retombées. On va aborder le sujet plus tard, mais c'est une des retombées majeures.
On va l'aborder maintenant, parce que l'heure tourne très vite, donc abordons les retombées.
C'est l'une des retombées majeures technologiques du LHC. C'est de mettre en place un système d'ordinateurs et de calculs partagés pour l'analyse des données du LHC sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que partout dans le monde, les universités possèdent des centres de calcul avec plusieurs milliers d'ordinateurs par centre, et tous vont être reliés entre eux par le réseau Internet, et les données qui vont être extraites des détecteurs du LHC et de Atlas vont être partagées sur l'ensemble de ces centres de calcul.
Ça fait combien d'ordinateurs en tout ? On a un ordre de grandeur ?
Ouais, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs qui vont travailler en commun.
En permanence.
En permanence, voilà. Donc l'idée, c'est que ces données vont être réparties, puis quand un physicien va vouloir faire une analyse, avoir accès à des données, depuis son petit ordinateur personnel, il va utiliser un logiciel de la grille, et il va lui dire, moi je voudrais réaliser tel travaux sur tel ensemble de données, débrouille-toi pour me faire exécuter ce travail et rapporte-moi le résultat. Donc le travail informatique va être expédié sur l'ensemble des ordinateurs et puis revenir pour effectuer son... donner les résultats.
Alors déjà que les physiciens du CERN étaient à l'origine, pour ceux qui ne le savaient pas, du web, hein, c'est eux qui sont à l'origine d'Internet, du réseau Internet qu'on utilise tous les jours en format HTML pour envoyer du courrier à droite à gauche, et bien là vous allez en tout cas faire en sorte que le grid ça marche et ça va pouvoir être utilisé j'imagine dans d'autres domaines, dans plein d'autres domaines.
Oui, moi je pense que c'est vraiment précurseur, que cette technologie va être précurseur de la mutualisation des ordinateurs, même des ordinateurs personnels. Je vois très bien que dans quelques années les gens qui voudront mettre leurs ordinateurs en mutualisation, par exemple, vous dites, moi je suis prête à prêter mon ordinateur, si vous voulez. Bon, prêter, mais il sera en la maison. Connecté.
Même un particulier pourra le faire ?
Je pense que même un particulier pourrait le faire, oui.
Ça existe déjà partiellement.
Oui, vous installerez un petit logiciel chez vous en disant que moi je veux participer à la recherche sur le cancer, par exemple, et qu'un certain temps de calcul que vous choisirez sera consacré... et que certaines ressources de votre ordinateur soient utilisées dans un contexte global mondial. Donc, même du point de vue humain, je trouve que c'est extraordinaire.
Effectivement, ouais. On va faire une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.
Frère, suivez-moi pour gagner de l'argent, sauver la planète, connaître la paix éternelle.
Si on arrêtait d'attendre une solution divine,
énergie renouvelable, chauffage, isolation, éco-construction.
Pensez Via Énergie, le salon des économies d'énergie du 12 au 14 octobre, Saint-Genis-Pouilly, Centre culturel Jean Monnet, entrée gratuite.
La science est en fête en Savoie comme partout en France du 8 au 14 octobre. L'occasion pour la communauté scientifique de se mobiliser et de nous faire partager ses connaissances. Une quarantaine d'animations et d'événements gratuits se déroulent un peu partout, avec aussi l'installation de 3 villages des sciences. Le soleil et le solaire à Savoie Technolac au Bourget du Lac, l'industrie, l'aluminium et l'innovation à Villargondran en Maurienne, et la recherche en milieu extrême et les sciences naturelles dans le Carré des Sciences à Chambéry. La Fête de la Science 2007 vous invite aux frontières de la connaissance du 8 au 14 octobre en Savoie avec France Bleu.
Le 18 octobre, l'Arena de Genève va vous plonger au cœur des années 80. Tous ces tubes à la chaîne, comme seuls les années 80 en avaient le secret. On repart. Retrouvez durant cette soirée Samantha Fox, Julie Pietri, François Feldman et Thierry Pastor. Les années 80, si loin, si proche, c'était hier encore et c'est aujourd'hui à nouveau. Génération 80 partie, le 18 octobre à 20h30 à l'Arena de Genève. Une cure de jouance à vivre avec France Bleu.
La vie en bleu, Sylvia Depierre et les experts.
Les experts aujourd'hui qui s'intéressent à la physique fondamentale, notamment à l'accélérateur de particules du CERN avec nos deux invités, Fawzi Boudjema et Pierre-Antoine Delsart. Ils sont physiciens au laboratoire de particules d'Annecy. On n'a pas dit que c'était quand même une entreprise mondiale, la création de ce LHC. Hein,
oui, Pierre-Antoine. C'est ça, c'est que, par exemple, dans Atlas, l'expérience dans laquelle je travaille, il y a près de 2000 collaborateurs.
À travers le monde.
À travers le monde, donc ça fait une trentaine de pays, plus de 100 institutions, universités qui collaborent ensemble à la création de cette machine.
Ah, c'est un énorme projet qui a un coût aussi, hein, qui est important.
Oui.
Mais qui, remis à une échelle, on va dire, en matière de découverte et de tout ce que ça pourrait amener, finalement.
Oui, on peut citer les chiffres. Par exemple, pour le nombre de physiciens qui sont impliqués, il y a 4500 Européens, il y a 750 Russes, il y a 600 Américains, il y a 100 Japonais, il y a 80 pays qui sont représentés, et c'est vraiment formidable. Donc le côté humain est quelque chose d'extraordinaire. Bon, maintenant les coûts, c'est vrai que les coûts sont évalués à peu près à 2 à 3 milliards d'euros. Donc, si on rajoute la main d'œuvre ou si on rajoute... 3 milliards d'euros. Alors 3 milliards d'euros, ça représente un peu le prix d'un porte-avions.
Voilà, comme ça on a un ordre
d'exemple. Et puis pour remettre un peu dans le contexte, ça n'a rien à voir avec des sondes faramineuses, comme ce que demandent les Américains pour l'effort de guerre en Afghanistan ou en Irak, qui représente 192 milliards.
Ouais. Donc, c'est bien de remettre les choses à leur place.
Voilà. Et pour que ça nous rapporte pour l'humanité, je trouve que c'est une... c'est une expérience, mais vraiment extraordinaire. Disons, ouais. D'où on vient, comment sont faites les choses, etc. Je pense que C'est extraordinaire.
Et bon, je suis désolée de vous couper parce que c'est déjà la fin de cette émission. Ce fut un vrai régal de vous accueillir. Merci à tous les deux. Et puis je rappelle qu'il y a cette grande exposition jusqu'au 20 octobre à la MJC de Novelle sur cette machine à remonter le temps, le LHC. Vous pourrez rencontrer d'autres physiciens qui répondront à toutes vos questions, toutes celles que je n'ai pas eu le temps de poser. Demain,